RFI, 18h30 ici à Paris, et dans le débat du jour, nous parlons des Jeux Olympiques qui vont revenir en France.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, après le succès de Paris 2024, que faut-il attendre des Alpes 2030 ? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela commence doucement. Ça ne commence pas idéalement, dira-t-on. Une candidature bouclée en quelques mois seulement, pas ou peu de concurrents, un président annoncé puis qui se retire, mais aujourd'hui, enfin, un comité d'organisation qui a été dévoilé, cela s'est passé à Lyon, et la personne qui sera à sa tête, eh bien, est l'ancien champion olympique Edgar Gros-Piron. Notre question ce soir, fallait-il organiser les JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises ? Les critiques sont vives, en raison du coût engendré dans un pays où les finances dégringolent, dans un monde où le changement climatique rend la neige de plus en plus rare. Dès lors, quels sont les atouts des Alpes 2030 et qu'est-ce que ce débat révèle ? Eh bien, soyez les bienvenus sur RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Armand de Rendinger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant international et expert dans l'analyse du mouvement olympique. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Vincent Chaudel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Et Fiona Mill, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'ONG Mountain Wilderness, autrice de l'ouvrage « Réinventer la montagne ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, Armand de Rendinger, ça vous inspire quoi ce lancement en grande pompe aujourd'hui à Lyon ? Ces JO seront un champ de boss. Alors il a joué un petit peu sur ce qu'il connaît, Edgar Gros-Piron, qui va durer 5 ans. Il va falloir avoir les cuisses et les genoux, la gnaque. A dit bah, le nouveau président de ce COJOP, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, on oublie les débuts difficiles. Est-ce que 2030, la course vers les Alpes françaises est véritablement lancée ?
Ah bien, elle est vraiment lancée. Et il faut espérer qu'elle soit lancée et qu'on se mette vite au travail. Car il ne reste que 5 ans pour avoir de livrer des Jeux Olympiques à la hauteur. Il faut savoir que j'étais en ligne aujourd'hui avec nos amis de Salt Lake City qui organisent les Jeux Olympiques de 2034. Eux, ils ont devant eux 9 ans pour les réaliser. Nous, il nous reste que 5 ans. En général, il faut 6-7 ans. Les Jeux Olympiques, c'est très, très, très compliqué à organiser. C'est très complexe. Et ceux d'hiver, plus particulièrement. Non pas parce qu'ils sont plus petits, mais il y a beaucoup de bosses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition sur ce genre d'événements. Moi, qui suis totalement favorable à l'organisation des Jeux Olympiques dans les Alpes, je trouve ça un booster fantastique. Il faut considérer que c'est un investissement, d'une part pour le sport français, d'autre part, pour la transformation du modèle d'attractivité de nos stations dans les Alpes. Et je pense que là, on se trouve confronté à un triple challenge. Un premier, d'abord, savoir organiser les Jeux. Ça, je fais confiance à Edgar Gros-Piron et à son équipe pour pouvoir les organiser correctement. Deuxièmement, il y a une logistique et des finances à respecter. Là, ça va être très compliqué parce que les politiques se sont servis. On n'a jamais vu un pays au monde qui organisait des Jeux d'hiver sur 600 km, du sud, du bord de la Méditerranée, jusqu'au Grand Bornand. C'est injouable.
Ce sont deux régions.
Deux régions.
Qui organisent
ce sont des politiques qui se sont lancés dans l'opération, ils se sont servis, ils sont disséminés. Mais Edgar Gros-Piron a été très courageux. Aujourd'hui, il a dit très clairement, il faut resserrer les boulons à tout prix. Ça va être compliqué. Ouais. Et le troisième enjeu, c'est l'héritage. Paris 2024 a été un succès spectaculaire, extraordinaire. Bravo Tony Estanguet. L'héritage, on se pose la question, effectivement, quel va être l'héritage ? Il y a un début d'héritage, mais pas complètement. Pour les Jeux d'hiver, il est absolument indispensable de trouver un héritage. Au-delà de la mobilisation, au-delà du sport, moi je crois que c'est l'occasion unique, et la France a la possibilité de faire un bras de fer avec le CIO, et avec l'État, et le gouvernement et les politiques, pour qu'effectivement, on profite de ces Jeux, si on les veut vraiment, et bien les organiser, pour transformer le modèle économique, le modèle d'attractivité de nos stations, des Alpes elles-mêmes. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. En 2030, il y aura moins de neige, tout le monde le sait. Et pour avoir vraiment cette possibilité de transformation et de changer le modèle d'attractivité de ces territoires, ce n'est plus des stations, ce sont des territoires, il est indispensable qu'on investisse très tôt, très vite. Et puisque le CIO se veut environnemental, et que nous aussi, eh bien, investissons. Ce n'est pas le rôle d'Edgar Gros-Piron. Gros-Piron, il doit livrer les Jeux Olympiques le mieux possible, techniquement, resserré, budget, respecté, athlète content. Mais l'environnement est indispensable, c'est l'investissement des politiques.
Fiona Mill, ça doit vous parler, ça. Vous qui êtes président de l'ONG Mountain Wilderness,
bien sûr,
l'idée que ça va transformer l'héritage des jeux et que ça va changer un petit peu le visage de la montagne en France.
C'est indépendamment des jeux, le visage des montagnes doit être transformé. Les Jeux Olympiques peuvent transformer radicalement en mauvais Sochi, où on a rasé la montagne. En France, on a la possibilité de protéger nos Alpes et de les rendre encore plus attractives.
Mais je voudrais un premier mot de Fiona Mill sur ce point-là.
Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai envie de rêver de montagne pour 2030. J'ai envie de rêver de sport. J'aimerais rêver de fête. Malheureusement, je pense que cette candidature telle qu'elle est aujourd'hui, elle respecte plus les défis de notre siècle. On le sait, nos territoires de montagne, ils sont en première ligne des effets du dérèglement climatique. Quand il fait plus 2, plus 3 degrés dans nos vallées, c'est bien plus haut là-haut et on en voit très directement les conséquences. Et on sait aussi que nos territoires de moyenne montagne, nos stations et nos territoires sont déjà confrontés justement à ces effets avec justement un enjeu de diversifier notre économie, de diversifier notre modèle touristique. Et malheureusement, ces jeux d'hiver, ils sont encore un peu ancrés dans le siècle du passé. Tout simplement parce qu'ils cherchent à continuer à nous faire rêver autour de la glisse dans des montagnes qui malheureusement sont en train de fondre. Et je pense que du coup, ils sont peut-être même un peu pauvres par rapport à tout ce que peuvent nous apporter les territoires de montagne. Je pense qu'on ne peut plus se permettre de faire rêver uniquement de ski quand on parle de montagne en 2030. Et c'est ça qu'incarnent ces jeux d'hiver.
Mais attendez, tout n'est pas encore joué. Comme le rappelait Armand Drandinger, ça ne fait que commencer. Normalement, il faut 6-7 ans, vous me disiez, pour monter les JO d'hiver. Là, ça va se faire en 5 ans. Mais il y a 5 ans devant nous pour que cet héritage évoqué par Armand Drandinger ait lieu. Pourquoi est-ce que c'est impossible selon vous ?
5 ans, c'est très court. D'ailleurs, il n'y a pas eu de concertation territoriale, il n'y a pas eu de co-construction de cette candidature dans les Alpes. Vous le savez, là, il n'y a pas eu de référendum. La population alpine et la population française n'a pas été consultée pour savoir si elle était pour ou contre organiser des Jeux d'hiver. Donc, j'ai envie de dire, on est vraiment mal parti. On n'est pas sur des Jeux d'hiver qui peuvent servir les territoires, qui peuvent servir la transition. Est-ce qu'on n'essaye pas simplement de fêter pour une dernière fois les Jeux d'hiver en France ? Si c'est le cas, je trouve ça dommage. Je pense qu'on a loupé une occasion à la fois de réinventer le sport en montagne, peut-être de réinventer les événements festifs et surtout de voir nos priorités pour 2030. Je pense qu'on a loupé une occasion de faire une autre fête de la montagne en 2030 qui aurait pu être une fête sportive, certes, mais aussi une fête qui soit ancrée dans le respect des enjeux écologiques de notre siècle.
Mais quelle autre fête ? Vous pensez à quoi concrètement ? Comment est-ce qu'on aurait pu organiser différemment, encore une fois, ces JO dans les Alpes françaises 2030 qui ne sont encore qu'embryonnaires ?
Vous savez, je pense qu'en 2030, on ne peut plus se permettre de faire rêver des jeunes générations, comme ça a été le cas à Albertville, à Grenoble ou même à Chamonix, autour des sports de glisse, quand en moyenne montagne, nos stations sont soit endettées, soit sont en train de fermer. Ce n'est pas responsable. On a besoin de valoriser la montagne dans toutes ses dimensions, que ça soit bien évidemment la montagne sportive, mais on aurait même pu imaginer un événement en 2030, une grande fête de la montagne, où on valorise à la fois sa dimension culturelle, sa richesse naturelle, bref, tous ses atouts.
Et ça peut entrer dans le cadre des Jeux Olympiques, je vous demande d'être précise, parce que vous dites qu'il n'y a plus la place pour les sports de glisse, ça veut dire pas de JO en fait.
En fait, je pense que les sports de glisse auront leur place en 2030, mais auront leur juste place. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être la vitrine de nos montagnes, comme ça a été le cas en 92 ou en 68. Aujourd'hui, la montagne, elle a d'autres défis et des défis majeurs devant elle. Et en effet, faire rêver autour de ski sur de la neige artificielle, excusez-moi, mais je trouve que c'est un peu pauvre. Nos stations d'altitude, si on pense à Courchevel, à La Plagne, bien évidemment, elles vont continuer à être attractives demain. Mais j'ai envie de dire, la montagne, elle se résume pas à Courchevel, La Plagne ou Serre-Chevagnier. La montagne, ça va des Pyrénées, au Cantal, aux Vosges, au Jura. Et tous ces territoires, ils ont besoin d'être accompagnés dans la transition. Parce que là, quand même, quand on pense aux questions, bien évidemment, de disparition de nos glaciers, aux questions de mobilité, aux questions de transition touristique, on a quand même des sacrés défis. Et je trouve que c'est un peu dommage que notre seul cap collectif pour 2030, ça soit de mettre des millions, voire même des milliards d'euros autour d'une grande fête du ski.
Alors justement, Vincent Chaudel, vous qui êtes économiste du sport, c'est plutôt des milliards que des millions. Ça coûte combien l'organisation de JO d'hiver ? Et combien vont coûter précisément ces JO Alpes 2030 ?
Ah, le budget est toujours le nerf de la guerre, mais ça va dépendre du projet. En général, les JO d'hiver, c'est en gros 3 fois moins que les JO d'été, 3 à 4 fois moins que les JO d'été, mais ce qui est normal, hein, on accueille à peu près 90 délégations, là où on en a eu 206 pour Paris 2024. On a à peu près 3 000 athlètes, là où on a eu plus de 10 000 athlètes pour les JO d'été. Donc c'est normal que ça coûte moins à ce niveau-là, mais après ça dépend de ce que veut faire le pays hôte. Armand parlait de Sotchi. Sotchi, l'ambition de la Russie, c'était aussi de faire une station balnéaire pour les moscovites. Et à ce moment-là, il y a des investissements qui sont colossaux.
Sotchi,
Albertville 2000.
ça a été complètement une envolée budgétaire, Sotchi.
50 milliards
bien sûr, bien sûr.
de dollars.
Mais Albertville 92, et Armand le sait mieux que moi, a permis de désenclaver toute une région. Donc il y avait un projet d'aménagement du territoire. Et en fait, on n'accueille pas des JO d'été ou d'hiver pour gagner de l'argent, c'est surtout pour gagner du temps dans une transformation. Alors là, comme Fiona l'a évoqué, le sujet, c'est que ça a été une décision qui a été prise assez rapidement, pour pas dire très rapidement, à l'échelon politique et pas à l'échelon sportif. Et la question, c'est de savoir pour faire quoi désormais? Parce que bien organiser ces JO, moi, j'ai aucune inquiétude. Je pense que Armand me rejoindra là-dessus. On sait faire et on organisera de bons JO. Maintenant, pour faire quoi exactement? Ça, je pense que c'est l'enjeu d'Edgar de Gros-Piron, d'y travailler très rapidement pour donner du sens à ces JO.
JO 2030 dans les Alpes françaises, pour faire quoi? Ça, c'est une bonne question à Armand de Rendinger, qui parle d'aménagement du territoire. Est-ce que, effectivement, à l'image d'Albertville 92, ça va être possible de réaménager le territoire et donc d'en tirer profit de ces Alpes 2030?
Alors, on va pas réaménager les territoires dans les 5 ans qui viennent, mais on va peut-être faire en sorte que le projet soit lancé pour que ça se réalise comme on le veut.
Parce qu'encore une
Non, de
fois,
toute
la donne, elle est
façon,
très
est très
différente.
différente.
Albertville 92,
C'était, il fallait
c'était un
désenclaver la
endroit.
Tarentaise. C'était un endroit,
Voilà.
et Dieu sait que c'était disséminé pendant au départ. On les a regroupés. C'est Jean-Claude Killy qui a exigé que ça soit regroupé. Il était même parti en disant, écoutez, si vous ne regroupez pas, je ne continue pas. Là, on se trouve quasiment dans la même situation. Edgar Gros-Piron disait très justement à la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui, il a dit, mais il faudra resserrer les boulons et serrer tout le dispositif. Et là, vu que l'échéance est dans 5 ans, je pense que d'ici la fin de l'année, ou plus tard, moi c'est septembre-octobre, par là, on verra très clairement comment est organisé les Jeux, qu'est-ce qui est prévu comme site, et donc le budget en conséquence. À partir de là, le devoir d'Edgar Gros-Piron et son équipe, c'est de mettre en place le projet sportif. Mais ce projet sportif sera accepté ou ne pas accepté par la population locale, même la population française, si le projet ne s'accompagne pas de cette vision que doit avoir Gros-Piron, que doit avoir les politiques, de dire, écoutez, profitons des Jeux, et c'est un budget à part, je dirais,
L'héritage.
de l'héritage. Et pour moi, c'est, comme disait très justement, on viendra tout à l'heure, il faut repenser complètement cette espèce d'attractivité des territoires. C'est plus l'attractivité des stations, c'est l'attractivité des territoires qui se dépeuplent aujourd'hui. Et donc peut-être que des sports d'hiver vont devenir des sports d'été peuvent rejoindre les Jeux d'hiver. Et ça, cette vision, il faut aussi qu'on l'ait au mois de septembre-octobre, parce que si on ne l'a pas, et avec les moyens qui vont avec, il est certain qu'on va de grosses difficultés, énormes.
L'enjeu de l'opinion publique, il est clé. Fiona Mill disait pourquoi il n'y a pas eu de référendum.
Alors,
Est-ce qu'il doit y avoir un
référendum
pour les
Jeux
Olympiques? Et c'est vrai que c'est une bataille très importante parce que, par exemple, dans les moyennes montagnes, la neige se raréfie. Il y a le danger aussi d'avoir contre soi. C'est
l'organisation de ces JO Vous avez
2030.
Parfaitement raison. C'est que, revenons la genèse de l'attribution des Jeux de Alpes 2030 à la France. Il faut savoir qu'il y avait deux candidatures, qui étaient la Suède et la Suisse, qui étaient des candidatures très sérieuses, très compactes, tout ce qu'il fallait. La Suède, ça fait des décennies qu'elle les réclame. Et le président du CIO considérait qu'il y avait un risque d'attribuer les Jeux soit à la Suisse, soit à la
À la
Suède,
Suède.
Parce que automatiquement, il y avait un référendum. en les attribuant à la France.
Il n'y a aucun risque
de référendum. On réclame toujours un référendum. Il n'y est pas prévu de faire des référendums. C'est le projet. Il faut modifier la Constitution. Mmh. Et Thomas Barr a convaincu et le président Macron de dire prenez les Jeux d'hiver, faites-les, organisez-les le mieux possible. Je n'aurai pas de risque qu'il soit ensuite rejeté, comme c'était le cas à Denver dans les années 70, par là. Donc pas possibilité de référendum. Donc il était indispensable que les organisateurs des Jeux et les politiques aient une vision technique, Ropiron, et une technique de transformation de la montagne. Et ça, ça doit être vu par les politiques. Mmh. Et là, je répète, il y a l'occasion unique, puisque les Jeux ont été attribués à Alpes 2030, sans qu'ils les aient réclamés au départ, d'avoir une sorte de bras de fer avec le CIO, de dire très bien, ben, investissons d'une manière commune, vous et nous gouvernement et vous CIO, pour la transformation dans les 10 ans qui viennent.
Mmh. Voilà. Et ça pose une question intéressante, parce que vous dites ces JO qui ont été attribués aux Alpes françaises sans qu'elles le réclament. Mmh. La question, c'est, puisqu'on pose ce soir la question, est-ce qu'il fallait organiser les JO d'hiver 2030? Mais moi, je peux vous poser la question de où auraient été organisés les JO d'hiver 2030 s'ils n'avaient pas été organisés dans les Alpes, puisqu'ils étaient seuls.
On était les seuls, puisqu'il y avait un risque avec la Suède et la Suisse, et qu'il n'y avait qu'une douzaine de pays qui pouvaient organiser des Jeux d'hiver du type traditionnel, comme ceux qu'on a vus par le passé. Mais, par exemple, South Lake City, qui a les Jeux de 2034, pouvait les organiser déjà en 2030. Mmh. Eux, ils ne vont pas transformer, ils ont déjà l'héritage de 2002, complètement, avec une vision un peu particulière. En ce qui les concerne, j'ai appris ça aujourd'hui, qu'ils vont intégrer le plus possible les communautés de l'Utah. Mais les Jeux de 36, de 38, on pense que la Suisse va les avoir, cette fois-ci.
Ouais. Okay.
Et puis, donc, ils sont tous attribués, tels quels. Et nous, on s'est battu pour faire un dossier qui séduise le CIO, mais le dossier va être mis en cause très, très sérieusement, là, dans les 6 mois qui viennent, par Edgar Gopiron, ça, c'est clair.
Vincent Chaudel, qu'est-ce qu'il faut penser de cette organisation des Alpes 2030 Armand de Rendager a bien posé le contexte. Et je vais citer la ministre des Sports, Marie Barzac, qui n'est pas censée être parmi les opposants à ce projet, qui dit « C'est après avoir remporté la compétition que nous nous sommes posés les questions de gouvernance et d'organisation. »
En fait, Armand l'a bien expliqué, on va accueillir ces JO, je pense, plus pour rendre service au CIO que par volonté et vision. La vision, visiblement, elle est à construire, donc ça veut dire qu'on a eu l'attribution avant même d'avoir une vision, et on a rendu service au CIO parce que le CIO, aujourd'hui, a un problème avec les Jeux Olympiques d'hiver. On a de moins en moins de pays capables de les accueillir en termes écologiques, j'entends, et surtout des pays qui, de moins en moins de pays qui souhaitent les accueillir. Et puis, finalement, on avait un autre problème pour Thomas Barr, c'était il voulait sécuriser les prochaines échéances des Jeux Olympiques d'été comme d'hiver avant de céder la place. Donc, on lui a rendu service. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut peut-être nous apporter d'avoir un président du CIO, hein, puisqu'on a notre président du CNOSF qui est candidat, mais après on peut aussi s'en servir dans cette notion de transformation. Armand a évoqué par exemple le fait qu'on peut peut-être accueillir d'autres sports. J'entends par exemple le cyclisme qui se dit pourquoi pas faire du cyclo-cross pendant les JO d'hiver. Est-ce qu'en fait les JO d'hiver à l'avenir seront des JO d'hiver, de sports d'hiver tels qu'on les connaît, ou plutôt des sports indoor, et peut-être des JO d'été qui seraient plutôt des sports outdoor. Ça peut être des pistes, et peut-être que Alpes 2030 pourrait enclencher ce mouvement-là.
Fiona Mill, j'imagine que ça peut vous faire réagir, cette ouverture possible.
Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'on manque de vision. On manque de vision pour cette candidature autour des Jeux d'hiver, mais globalement, on manque de vision pour nos montagnes. Parce que quand on vit en montagne, on sait très bien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est franchement difficile de se projeter dans l'avenir. Et je pense que, à la fois, on a loupé avec cette candidature un référendum pour ou contre les Jeux d'hiver, mais surtout, on a loupé l'occasion de poser la question aux habitants des montagnes de qu'est-ce qu'ils souhaitent pour les années à venir. Comment on, à la fois, on, Alors, tout à l'heure, on parlait d'attractivité. Moi, je pense que clairement, l'enjeu de nos montagnes aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'être attractive. Les montagnes, elles attirent, qu'il y ait de la neige ou pas de neige. D'ailleurs, les montagnes, elles sont belles, elles nous émerveillent. Et on voit bien d'ailleurs que de plus en plus de Françaises et de Français vont en montagne parce qu'on a besoin de montagnes. Donc, je pense que la question, ce n'est pas juste l'attractivité. La question, c'est véritablement comment on vit en montagne demain.
La question que je voulais surtout vous poser, c'était ce qu'évoquait Vincent Chandel, les pistes qu'il évoquait vers une évolution des épreuves davantage adaptées. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans les Alpes 2030 pour les JO, et est-ce que ça peut être de nature à vous séduire ?
Moi, en fait, bien évidemment, je suis pour qu'on réinvente le sport, mais je veux surtout qu'on parle de montagne. Moi, ce qui m'intéresse dans les sports de montagne, c'est qu'ils soient ancrés montagne. Vous savez, la montagne, justement, c'est très différent des Jeux Olympiques de Paris, parce qu'en effet, on n'est pas dans le indoor, on est dans des milieux naturels. Et pour moi, quand on fait du ski, on fait du ski dans un milieu qui est naturel. On joue avec les éléments, on joue avec la pente, on joue avec le vent, on joue avec la météo. Aujourd'hui, en effet, je pense que le cahier des charges du CIO, il est de plus en plus hors sol. Aller faire des épreuves sur de la neige artificielle pour garantir l'égalité entre les athlètes, c'est pas un sport de montagne. Enfin, si transformer les sports de montagne en sport aspect, c'est transformer l'activité pour qu'elle soit aseptisée, pour que ce soit pareil de skier en effet sur une pente en montagne ou sur une pente artificielle à l'autre bout du monde, moi j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Enfin, clairement, la force des jeux d'hiver en montagne, c'était qu'ils aient lieu dans ces milieux naturels. Et donc, je pense que si on va vers des modèles qui sont de plus en plus hors sol, c'était quand même le chemin que prennent les sports olympiques à aujourd'hui. Personnellement, moi, je trouve que ça ne m'intéresse pas et je pense que ça ne va pas faire rêver grand monde.
Et on va évoquer dans la deuxième partie du débat du jour l'avenir des Jeux Olympiques d'hiver.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Car la question qu'on pose ce soir est, est-ce qu'il fallait organiser ces JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises alors qu'aujourd'hui, le président du COJOP, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour ces JO d'hiver 2030 a été présenté. Il s'agit d'Edgar Gros-Piron, l'ancien champion olympique des bosses. Mes trois invités sont Fiona Mill, que l'on entendait, présidente de l'ONG Mountain Wilderness, autrice de l'ouvrage Réinventer la montagne, Vincent Chaudel, économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business, et Armand de Randinger, consultant international et expert dans l'analyse du mouvement olympique. Alors, avant Edgar Gros-Piron, il y a eu un nom qui a été évoqué pour prendre la présidence du COJOP, c'était Martin Fourcade, et puis finalement qui a jeté l'éponge et qui s'en a expliqué dans les colonnes de l'Équipe en disant « Mon ambition pour ces Jeux, elle est claire, ils doivent être en phase avec leur époque, conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays. » Alors, ce n'est pas Fiona Mill qui dira le contraire, vous en pensez quoi, Armand de Randinger? Il a dit « Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier.
» Je crois que Martin Fourcade a dit la vérité, ok. Et il a vu qu'effectivement, d'organiser les Jeux comme lui le souhaiterait, c'était pas possible, politiquement, économiquement. Ce n'était pas jouable. Alors, est-ce qu'il est crédible et légitime de dire cela? C'est à voir. Il y a peut-être d'autres éléments qui ont fait qu'il a jeté l'éponge. Mais ce qui est quand même très, très original, et là, je n'ai vu qu'en France, depuis 1972, que je suis les Jeux Olympiques, je suis absolument sidéré. C'est la première fois qu'on voit que des tas de candidats, il y avait une liste de candidats qui se présentaient, prêts à organiser les Jeux parce que ça me plaît, parce que j'adore le ski, parce que j'ai fait des médias et ainsi de suite. C'est jamais fait comme ça. C'est une nomination qui doit se faire d'une manière très rationnelle. Là, il se trouve que Martin Fourcade pouvait effectivement légitimement l'être le patron de ces Jeux compte tenu de son parcours olympique, son parcours professionnel, la question se pose. Vous savez, quand Jean-Claude Killy a pris les rênes avec Michel Barnier de l'opération d'Albertville, ou Sébastien Coe, lorsqu'il a pris les rênes de Londres pour les Jeux de 2012, il est clair que ces gens-là étaient des sportifs reconnus, donc ils avaient une légitimité totale, mais ils avaient aussi une crédibilité parce qu'ils avaient fait du business, ils avaient travaillé, ils étaient rentrés dans l'entreprise. Ce qui est le cas de Gros-Piron, mais qui n'est pas le cas de Fourcade. Donc, je dis aujourd'hui, la manière dont la genèse de cette nomination fait que, effectivement, le parcours va être compliqué. Si on ne fait pas attention tout de suite, mais j'ai cru comprendre que Edgar Gros-Piron avait décidé de faire le holà dans cette espèce de dispersion des sites. Il dit qu'il faut avoir une vision qui doit accompagner l'organisation des Jeux, il faut qu'on les aille dans les 3-4 mois qui viennent. Mmh. Sinon, ça va exploser.
Mais vous avez dit qu'il y avait la possibilité d'une transformation de la montagne. Oui. On est quoi à ce que vous avez dit? Et Fiona Mine n'est pas d'accord, mais Edgar Gros-Piron a dit aujourd'hui que ces JO doivent être un catalyseur qui permettra de définir une stratégie qui accompagne la transition de la montagne française. Ça accompagne vos mots. Vincent Chaudel a dit finalement que cette candidature des Alpes 2030, c'était pour rendre service au CIO, parce qu'il y a de moins en moins de pays qui sont capables d'organiser les JO d'hiver. Aujourd'hui, on pose la question, est-ce qu'il fallait organiser les JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises? Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui encore organiser les JO d'hiver autrement qu'à Sotchi en Russie, autrement qu'à Pékin il y a deux ans où c'était 100% de neige artificielle.
C'est soit dans des pays...
Donc dans des pays, entre guillemets, où la démocratie ne pose pas la question.
L'organisation des Jeux Olympiques se passe toujours bien pour le pays en question lorsque c'est dans des pays autocratiques. Très clair.
C'est plus que ça l'avenir des JO d'hiver.
C'est le cas au Pékin, c'est le cas en Russie. Pour la France, dans les pays démocratiques, c'est plus compliqué. La Suède et la Suisse, tant qu'ils feront des référendums, ça ne fonctionnera pas. Et le CIO a horreur de l'inorganisation. Okay, bon, elle a eu peur en ce qui concerne Paris 2024, mais comme ça a été un très grand succès, donc les Français se débrouilleront toujours. Ouais. Mais c'est vrai, on a l'impression que le CIO s'est débarrassé des Jeux d'hiver. La France, vous savez organiser ça, débrouillez-vous, vous avez un site absolument fantastique. Mais ce n'est pas suffisant comme critère. Parce que je comprends très très bien que les ONG et tout ça s'opposent aux Jeux Olympiques, au principe, à l'événement, du côté business, tout ce que ça peut représenter, et d'accidents pour la montagne, dans le cadre des Jeux d'hiver. Mais je crois qu'il faut quand même réfléchir à deux fois si les Jeux Olympiques qu'on a aujourd'hui, ça va être le catalyseur pour permettre effectivement de transformer le pays. Mmh. Et là, ça met nos politiques devant leurs responsabilités. Plutôt que s'opposer contre les Jeux, parce que chacun sait que c'est du business et de la politique, on le sait, mais c'est l'occasion unique, peut-être, de mettre les gens devant leurs responsabilités, j'allais dire, de rendre la montagne véritablement attractive. Mais quand je dis la montagne, ce n'est pas le ski, forcément. Ce sont les territoires pour que les gens qui vivent dans ces montagnes restent dans ces montagnes parce qu'ils sont très fiers de leur patrimoine et ils doivent le garder.
Fiona Mille, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut se dire que ces JO 2030 peuvent nous faire penser qu'on peut organiser encore des Jeux Olympiques d'hiver? Est-ce que c'est encore possible?
Je pense que ce qui est dommage dans ce débat, c'est qu'on se dit finalement c'est moins pire de le faire en France que de le faire dans les pays autocratiques. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse au mieux. Qu'est-ce qui nous rendrait fiers demain ? Personnellement, c'est pas accueillir les Jeux d'hiver qui va me rendre fière pour mes montagnes en 2030. Mmh. Donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que ces Jeux d'hiver, ils auront le moins d'impact possible et qu'ils freineront pas toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre actuellement dans les Alpes et dans les autres massifs, à la fois pour justement permettre cette vie à l'année, pour valoriser la montagne à l'année, pour partager l'amour de la montagne à l'année. Et du coup, j'espère que d'ici 2030, nous ne parlerons pas juste de quelques stations et des sports d'hiver, mais que nous parlerons de la montagne dans toutes ses dimensions.
Vous y croyez encore? Et notamment l'effet 2024, Paris 2024, on peut le retrouver d'ici 2030 pour les Alpes françaises?
Non, moi ça malheureusement, je n'y crois pas. Ouais. Parce que actuellement d'ailleurs, cette candidature, elle crée très peu d'élan dans les territoires, parce que justement elle n'est pas construite avec les habitants et parce qu'elle n'est pas construite autour d'un imaginaire, d'une vision qui soit partagée. Or, je pense qu'à aujourd'hui on a besoin d'avoir une vision pour nos montagnes. Et d'ailleurs, Montagne Wilderness a lancé il y a quelques semaines une grande consultation au niveau national, et on pose à tous les habitants et à tous les amoureux de la montagne, quelles sont vos idées pour faire vivre et protéger les montagnes en 2030? Et pour moi, c'est ça la priorité. Et en effet, on pourra parler de ski, on pourra parler de fêtes, on pourra parler de sport, mais il y a d'autres choses dont on a besoin de parler d'ici 2030, et j'ai peur que ces Jeux, ils ne soient pas un catalyseur d'énergie, mais plutôt qu'ils freinent des énergies.
Eh bien, à suivre, hein. Fallait-il organiser les Jeux Olympiques dans les Alpes françaises en 2030? Réponse à suivre dans les prochaines années. En tout cas, le débat est ouvert et il va continuer. Merci beaucoup à vous trois, Armand Rendinger, Vincent Chaudel et Fiona Mille. Voilà, c'est la fin de ce débat du jour. Dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir, présenté par Diane Berger, puis juste après, ce sera Afrique Soir.
à 19h30, heure française avec vous, Sylvie Béruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Alors quel programme ce soir?
Eh bien la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec cette visite ce matin, celle du président congolais Félix Tshisekedi qui s'est rendu à Luanda en Angola pour s'entretenir avec son homologue João Lourenço qui est désormais président en exercice de l'Union africaine. Une nouvelle donc initiative diplomatique. Le 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie avec un discours du président Adama Barrow appelant la jeunesse de sa pays à ne pas émigrer en Europe. Nous reviendrons également sur le Mali, 7 rebelles, une trentaine de civils tués dans la région de Kidal lors d'une opération conjointe des forces maliennes et de Wagner. Et puis au Sénégal, le début d'un mouvement de grève de 48 heures des médecins. Les hôpitaux donc sont paralysés, les médecins qui protestent contre leurs conditions de travail.
On vous retrouve dans 30 minutes.